et à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Aujourd'hui, je serai en compagnie de Morgan.
Salut.
Et d'ADH.
Bonjour à tous.
Cette semaine, au sommaire de l'actualité, nous parlerons comme d'habitude des indépendants, enfin, des indépendants à moitié. Là, on va plutôt commencer par un mod, qui est un mod fait par des fans de Skyrim, et ça s'appelle, Morgan.
Ça s'appelle Falskar.
Ensuite, Westland 2, qui a fait quelques petites annonces concernant sa date de sortie. On enchaînera sur le remake HD de Homeworld 1 et 2. Et on finira sur une édition spéciale de Indie Game 2 Movie pour les indépendants. On évoquera Firefly, cette série mythique de la science-fiction qui revient mais en jeu vidéo, dans un jeu en ligne apparemment.
Ouais.
On évoquera ensuite Strider qui revient d'entre les morts, Ubisoft qui fait des annonces assez particulières, on va dire qu'ils assument.
Ouais.
Et enfin, on évoquera les dates ainsi que notre jeu du moment, il s'agit de Rogue Legacy. C'est parti, donc nous allons commencer comme je l'ai évoqué par les mods, et mod qui paye pas de mine, Morgan.
Ouais, Falskar, en fait, c'est un mod qui a été édifié en un an et demi, je crois, par un amateur, en fait, qui a l'envie de travailler chez Bethesda, et quelle meilleure lettre de motivation que de faire un mod entier qui propose entre 20 et 30 heures de jeu, 26 quêtes, dont 9 qui sont liées à la trame principale, et même des morceaux de musique, avec 29 comédiens qui prêtent leur voix aux personnages de la région de Falskar. Voilà, c'est tous ces chiffres qui donnent le tournis quand même, hein. Parce qu'on parle quand même d'un mod qui est fait en amateur, donc la personne se finance elle-même. Ça fait quand même bizarre d'annoncer ce genre de chiffres, alors qu'on a des jeux AAA qui n'annoncent pas du tout ce genre de durée de vie.
Il y a eu en plus une centaine de personnes qui a travaillé sur le projet.
Ouais.
Ça fait quand même un sacré paquet de monde, mais surtout, moi, ce qui m'a impressionné, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est la qualité de ce qui est présenté, en tout cas.
Ouais.
En tout cas, en termes d'écriture, et surtout les doublages, le peu qu'on a vu, je trouve qu'ils sont extrêmement réussis. Limite, je les trouve plus réussis que dans le jeu original, quoi.
Ouais. Et le trailer de gameplay donne sacrément envie. Ça fait très pro, en fait. Et l'air de rien, ça donne sacrément envie. Franchement, j'ai presque envie d'en parler en termes de DLC, en fait. C'est un DLC gratuit fait par un amateur. Et ça, quand même, c'est quand même assez impressionnant et ça mérite d'être noté.
Quand même, quoi. Ça rajoute 20 à 30 heures de jeu. C'est plus que pas mal de DLC sur le marché, quoi. Quand même, c'est pas du tout négligeable, quoi. Surtout que derrière, il y a vraiment un travail de doublage. Le mec a fait passer des auditions pour trouver les bons acteurs qu'il faut, etc.
Ouais.
Il y a vraiment du gros taf derrière. Et tout ça parce que le mec veut bosser chez Bethesda et qu'il a envie de montrer son CV. Respect, respect.
C'est clair.
ATH.
Enfin, il mériterait peut-être un prix, celui-là, à la place d'être gratuit. Quand tu vois des boosts qui sortent et qui te le vendent 1€, 2€, là, le mec, il a vraiment fait un travail conséquent. Et quand même, tout travail mérite salaire. Donc, je pense que ce genre d'initiative, c'est une bonne chose. Moi, je dis chapeau l'artiste, quand même, tu vois. Les mecs comme ça, c'est rare.
Il précise, en fait, que incessamment sous peu, il va faire une candidature spontanée chez Bethesda. Et franchement, si avec ça, il est pas pris, je vois pas du tout ce qu'il peut faire, en fait. C'est ce qu'il peut faire de plus, en tout cas.
En tout cas, ça illustre bien ce dont je parlais. C'est-à-dire
ouais.
que le fait d'avoir des outils de modding comme ça, ça rallonge la durée de vie des jeux, quoi.
Bien sûr.
Alors, on est d'accord, hein. Le modding, en général, il y a beaucoup de merde dans le tas.
Oui.
Les mods qui foutent les nanas à poil. Mais ça arrive que dans l'eau, il y ait des perles comme ça, qui, en tout cas, en termes de travail, offrent suffisamment de contenu pour que les gens aient une raison valable de s'y intéresser et d'y passer plusieurs heures, quoi. Moi, je sais que là, ça y est, j'ai téléchargé le mod. J'en reparlerai, a priori, dans les podcasts, dans les jeux du moment.
Ouais.
Sauf si vraiment c'est mauvais, 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 hein, mais
bien sûr.
Voilà, c'est gratuit, c'est quelques centaines de mots à télécharger, bon, voilà, autant se faire plaisir. Ensuite, nous allons enchaîner sur Westland 2, qui annonce sa bêta pour le mois d'octobre, et qui parle aussi d'une date de sortie retardée.
Ouais, sans plus de détails en fait. On sait pas exactement quand est-ce que sera placée la nouvelle date de sortie.
Bon, après, ça sera pas le premier jeu qui sera reporté, quoi.
Oui, non, c'est pas...
Que ce soit sur Kickstarter ou même ailleurs.
Et puis, on en parlait justement d'avoir cet afflux d'argent en fait sur qu'on n'attend pas forcément sur Kickstarter. Quand on lance un Kickstarter, on donne une date de départ même quand on n'a pas le financement. Et quand on dépasse en fait le financement, c'est parce qu'on a promis quelque chose de plus en fait au financeur. Et du coup, forcément, le fait de rajouter plein de trucs au jeu, ça décale aussi la date de sortie. Donc finalement, c'est un cercle assez logique d'avoir justement cette date de sortie un peu décalée par rapport à ce qui était prévu.
En tout cas, là, autant sur Westland 2, ça me dérange pas fondamentalement.
Oui.
Grosso modo, on reporte la date et de toute façon, on se tient toujours à un jeu complet, etc.
Oui.
Enfin bref, ils ont pas fait un truc à la Double Fine ou ce qui était beaucoup plus gênant dans le cas de Double Fine qu'on n'a pas évoqué parce qu'on a fait des podcasts thématiques entre temps, mais
c'est vrai.
En gros, t'as Tim Schafer qui arrive, qui dit on a mal calculé le budget. Bon, à la limite, pourquoi pas. Encore une fois, qu'il y ait des soucis de projets mal évalués en termes de taille, ça arrive tout le temps avec les éditeurs.
Ouais.
C'est juste que les gens s'en rendent pas compte parce que c'est pas avec finance, mais voilà. Là, ce qui me gêne, c'est la solution pour laquelle il a opté, en fait. Donc, on a fait un projet tellement gros qu'on va couper le jeu en deux, en espérant que la première partie va suffisamment se vendre pour qu'on puisse financer la seconde, quoi.
Ouais.
Rien ne dit que la première partie va se vendre, quoi. Donc, en gros, on passe d'un jeu complet garanti à un jeu coupé en morceaux, quoi. Et ça, à mon sens, c'est quand même beaucoup plus problématique par rapport à ce qui était prévu, ATH.
Bah, c'est sûr que ça pose beaucoup de problèmes, notamment sur la confiance des gens. Ils pensaient que tu allais leur fournir un jeu complet et finalement tu leur dis que ils vont devoir repasser à la caisse alors que le truc il a complètement explosé son plafond. Et tu vois, dans ce genre de cas, que les mecs finalement ils gèrent un budget, tout ça, ils arrivent pas.
Alors attention, juste une précision, quand tu dis repasse à la caisse, on entend par là que ce sont les gens qui n'ont pas encore payé pour Double Fine Adventure, parce que ceux qui ont acheté le jeu, ils auront les deux parties de toute façon. Le problème, c'est qu'ils auront les deux parties si la seconde partie sort, c'est ça le souci.
Ouais, ok, voilà, donc, oui, ça pose donc un autre problème. Alors, t'attends un truc fini, et finalement, tu te dis que peut-être ou que oui, peut-être que non, je le tire pas dessus. Mais je dis juste que avant de lancer un Kickstarter, il y a beaucoup de choses qui rentrent en paramètre et que maintenant il faut qu'ils arrivent à éviter ce genre d'erreur pour l'avenir.
Bah à la limite, moi, qu'ils fassent l'erreur, c'est pas ce qui me gêne, c'est la solution qu'ils trouvent, qui me pose vraiment un problème. Parce qu'il y a d'autres solutions, je veux dire. Tu peux réduire la durée de vie du jeu, pourquoi pas, trouver d'autres personnes pour financer, des business angels par exemple. C'est ce que fait Star Citizen notamment, oui. Entre autres. Le Star Citizen qui continue sa course au million, au passage, mais c'est un autre sujet dont on reparlera une autre fois. Voilà, il y a d'autres solutions. Un autre cas qui m'a gêné aussi assez récemment sur Kickstarter, c'est Shadowrun Returns, qui sort bientôt, là.
Ouais.
Où, en gros, ils ont dit que le jeu en anglais sortait, bientôt, là. Sauf que la traduction, parce qu'il devait sortir aussi en français, enfin, dans plusieurs langues, la traduction arriverait plus tard, finalement. Alors, le truc, c'est que, en fait, quand tu relis le déroulé du Kickstarter, parce que moi, je vous avoue, c'est pas un Kickstarter que j'avais forcément suivi de très près, hein, vu que j'ai pas mis dessous dedans, voilà, quoi. Mais quand tu re-relis le déroulé du Kickstarter, tu te rends compte que c'était pas très clair, en fait. Donc, forcément, il y avait une ambiguïté là-dessus. Et là où je trouve que c'est gênant, c'est que, en gros, moi, je pense qu'ils auraient dû dire, dès le départ, la traduction sortira plus tard, vous contribuez aux connaissances de cause.
Donc t'es en train de dire en fait qu'ils ont profité des zones d'ombre de ce qu'ils avaient mis en fait dans leur Kickstarter?
Profiter, je sais pas. En tout cas, si, oui. Ils en ont profité, mais je sais pas si c'est volontaire ou pas. Mais c'est clair qu'ils en ont profité en tout cas, parce que, à mon avis, ils auraient dit que la traduction, il y en aurait une mais qu'elle sortirait plus tard, je suis pas sûr qu'il y aurait autant de monde qui aurait donné.
Entièrement d'accord avec toi là-dessus, parce que les gens des pays non anglo-saxons, ils n'auraient pas contribué à Kickstarter.
Après, j'estime quand même que quand on suit assidûment le milieu indépendant, on est quand même très anglo, on est très anglicisé, parce que bon, il y a énormément de jeux qui sortent Là, qui sortent même sur Steam, hein. On va parler de Rogue Legacy tout à l'heure, c'est un jeu qui est exclusivement en anglais. Ce sont des jeux indépendants. Quand on joue aux jeux indépendants, on est quand même habitué à avoir de l'anglais. Alors certes, quand on promet une version traduite, il faut quand même qu'elle arrive un jour. Mais j'imagine, enfin, en tant que joueur qui est très intéressé par le milieu indépendant, c'est pas quelque chose qui me dérangera beaucoup. Après, c'est sûr que quand on est à fond sur Shadowrun Returns et qu'on se dit ouais, de toute façon, j'achète, mais j'y jouerai en français dès la sortie du jeu. Là, c'est sûr que on peut être déçu.
Après, tu peux être anglophone et ne pas avoir envie de te taper des pavés de texte en anglais.
Ouais, c'est sûr.
Parce que c'est un RPG quand même, tu vois. C'est pas n'importe quel genre de jeu. Et il y a des personnes qui, même si elles comprennent l'anglais, n'ont pas forcément envie, voilà, de se taper un jeu en mode wall of text. C'est pas possible, quoi.
Oui, c'est sûr.
En tout cas, moi, je connais des gens qui n'auraient pas la patience d'attendre une traduction.
Un autre souci qui se pose, c'est le fait que, je sais pas, par exemple, s'ils utilisent un langage soutenu ou de l'argot, enfin, n'importe quel type.
Ouais.
Si ça peut être assez compliqué, même pour des, tu sais, par exemple, des, je sais pas, des collégiens, tout ça, qui voudraient s'y mettre.
Oui,
qui a un anglais assez basique. Et, par exemple, je sais pas, j'ai pas joué à Rogue Legacy, mais je pense que ça doit être assez compréhensible pour les non-anglophones, quoi.
Oui.
Par exemple, tu vois, j'ai un jeu qui correspond très bien à ce que tu dis, c'est Planescape Torment. Mm. Moi, je suis très bon en anglais.
Ouais.
Mais jamais de la vie je le ferai en anglais. Voilà. Ce jeu, c'est juste pas possible. Il y a un niveau d'écriture qui est tellement parfois soutenu, tu vois. Ou même un autre exemple qui parlera plus aux joueurs consoles, c'est Final Fantasy Tactics. Pas la première traduction, mais la seconde qu'ils ont faite, qui correspond beaucoup plus au langage soutenu très ancien. Tu vois, c'est l'anglais assez ancien en fait.
Ouais, ouais.
Franchement, pour se la taper pendant je sais pas combien d'heures de jeu, faut le vouloir, quoi. Faut aimer ça.
C'est sûr. Je pense en tout cas pour la traduction, c'est qu'ils s'y sont pris beaucoup trop tard et qu'ils avaient pas en tête déjà des traducteurs au moment où ils ont fait la campagne et que le retard en fait s'explique justement parce qu'ils ont pas pris les devants à mon avis.
Moi, je pense honnêtement que tu vois ça, c'est plein de studios qui ont pas forcément l'habitude de travailler sur des gros projets.
Oui.
Enfin, après, ça dépend. Double Fine aussi, carrément. Mais ce studio-là, moi, personnellement, je le connaissais pas du tout hein, avant que qu'il lance leur Kickstarter. Je pense qu'ils s'attendaient pas à ce succès-là. Et ça, c'est un sujet dont on pourra redébattre une autre fois. Mais les stretch goals, ce qu'on appelle les stretch goals, donc les objectifs supplémentaires, je pense que c'est pas forcément une bonne chose pour un projet qui était vraiment prévu pour avoir une taille raisonnable et que le développeur de plus en plus fait grossir le truc. Si c'était pas prévu pour ça, à un moment donné, je pense que ça peut poser problème. Et on a eu l'illustration sur Double Fine Adventure. Voilà, je vous propose qu'on passe à la suite.
Ouais.
On va évoquer maintenant le remake HD de Homeworld 1 et 2.
En fait, je sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque de la mort de THQ... en fin d'année dernière, c'est Gearbox qui avait acheté, enfin Gearbox Software qui avait racheté les droits de Homeworld pour $1,350,000. Et en fait, la première chose qu'on apprend par rapport à Homeworld, c'est qu'ils vont faire des remakes HD. C'est quand même assez bon. Enfin, je sais pas, j'aurais dû m'y attendre, mais ça m'a fait bizarre quand j'ai lu ça. Donc voilà, des remakes HD. On ne sait pas si ça sera des portages HD ou si ça sera des remakes. Comme on avait pu le voir avec Halo Anniversary où là c'était une réfection de fond en comble en fait. Bah j'imagine que ça sera peut-être plus des portages s'ils veulent les sortir rapidement. Bon, voilà, à savoir que Homeworld c'est un jeu qui est sorti en 99.
C'est une saga spatiale en gros.
Voilà.
C'est un RTS spatial qui est connu pour deux choses. Son histoire et sa musique qui déchire sa race. Franchement, c'est l'une des plus belles bandes son de l'histoire du jeu vidéo. Si vous l'avez pas écouté, je vous invite chaudement à y aller parce que c'est extraordinaire.
Et c'était développé à l'époque par Relic Entertainment, voilà, qui a été racheté depuis par Sega, il me semble.
Exactement. Bon, sachant que l'équipe qui a été rachetée par Sega, c'est pas vraiment le Relic Entertainment de cette époque-là.
Oui,
c'est
non, en effet.
Les vétérans qui bossaient sur Homeworld, ça fait longtemps qu'ils sont partis dans un autre studio. Donc, Bon, bah en tout cas, on espère que Gearbox va pas encore escroquer un autre éditeur pour financer ses jeux, quoi. Enfin, voilà.
Borderlands 3.
Je pense qu'avec les remakes, il n'y a pas besoin non plus d'un budget trop conséquent, donc peut-être qu'ils vont pouvoir le jouer un peu honnête cette fois.
J'espère.
Bon, ensuite, une édition spéciale pour In the Game of the Movie.
Ouais, alors on était habitué à ces versions longues qui sortent un an après la sortie du DVD habituel, surtout depuis Le Seigneur des Anneaux. Et ben là, en fait, même avec un film qu'on a acheté en téléchargement, et ben voilà, ça se fait aussi les versions longues sur Indie Game The Movie dont on vous avait parlé dans un podcast. Il y aura une version longue digitale mais aussi en boîte, à savoir que la version boîte coûte un peu plus cher, mais qu'elle est aussi bien plus fournie en termes de contenu. Alors pour la version digitale, ça coûte $5 si vous avez déjà la version habituelle d'Indie Game The Movie. Si vous voulez tout acheter dans la version spéciale en téléchargement, c'est $15, c'est un peu plus cher. À savoir que la version DVD et Blu-ray, elle est tirée qu'à 3000 exemplaires de chaque. Donc voilà, il va falloir... Va falloir se dépêcher si vous voulez la voir. Mais concrètement, en termes de contenu, ça rajoute 5 heures de film, en fait.
5 heures ?
5 heures, ouais.
Il va falloir être prêt, là. C'est le marathon,
alors,
hein.
Tu peux très bien... parce qu'en fait, c'est... Comment dire ? Ils sont coupés en court-métrage chacun, en fait. Donc tu peux très bien en regarder un, puis regarder les autres après.
Ah, mais qu'on soit clair, hein, je me plains pas. Hein. C'est juste que c'est impressionnant. Ouais. Quoi, ça.
C'est impressionnant, ouais. C'est dire, en fait, tout ce qui a été coupé au montage dans Indie Game The Movie, qui était un film d'ailleurs très très bien monté. Et donc voilà, j'imagine que ça c'est tout, enfin plein de matériaux, des interviews qu'ils ont eu avec notamment les développeurs de Fez et de Super Meat Boy, du matériel en fait qu'ils n'ont pas pu utiliser dans le film, mais qu'ils auraient bien aimé que le public le voit. Et moi j'avoue que je suis assez intéressé par ça, parce que c'est bien d'avoir des petits bouts d'interview, mais c'est bien aussi d'avoir des interviews un petit peu plus conséquentes, parce que souvent il y a des choses qui sont dites qui sont intéressantes, mais qui, pour les besoins d'un film qui doit être monté, doivent être coupées au montage, en fait.
ATH.
Bah, j'aime beaucoup le professionnalisme de mon collègue Mordren. La semaine dernière, on parlait du DLC dans les jeux vidéo, là, il nous parle des DLC maintenant dans les films.
Ouais, alors c'est pas vraiment un DLC, hein. Tu sais, les bonus...
Si tu veux, quand le DLC fait 5 fois la taille du film original, bon... moi, s'il faisait pareil dans les jeux vidéo, moi, je veux bien. Hein, mais...
Oui, mais après, est-ce que les 5 heures sont intéressantes à écouter ou pas ? C'est ça le...
Bah ça, j'en sais rien. On le verra à la sortie du machin. Ça sort le 24 juillet. Donc voilà, moi, je suis assez intéressé. Je vais voir si je peux pas me mettre la main dessus. J'avoue que je suis plus intéressé par la version boîte, donc il va falloir que je fasse vite, je pense, pour choper une version.
Bon, on sait que ça sera la moitié des gens, ça sera sur BitTorrent. Hein, voilà.
Oui, c'est probable, oui, en effet.
Leur dernier film, il avait mis directement sur BitTorrent, il me semble.
Oui, c'était lequel ? Bah, c'était le reportage sur la création de Minecraft.
C'est pas le même studio, alors ?
C'est pas les mêmes.
Minecraft, effectivement, c'est Two Player Productions qui est...
Oui, je crois que c'est ça, ouais.
Ils avaient dit, bon, de toute façon, on sait que vous allez le télécharger, hein. Donc, s'il vous plaît, si vous trouvez vraiment que c'est bien, quand même, achetez-le.
Ouais,
merci.
C'est ça.
Bon, ensuite, alors, honnêtement, je sais pas si Mordran est pétrifié de peur ou s'il attend avec impatience.
Ouais.
Je vais lui demander ça tout de suite. Alors, Mordran, Firefly Online, on sait tous très bien quel amour tu portes à la série.
En effet.
Vu que tu nous en as quand même parlé en long, en large et en travers dans un point culture.
C'est vrai.
Donc, qu'est-ce que tu en attends ?
Alors en fait, donc Firefly Online, ça a été officialisé en fait à la Comic-Con de San Diego. Et avec donc un espèce de mini trailer qui voilà, m'a donné des frissons parce qu'il y avait la musique originale de Firefly, et je me suis dit oh mon Dieu, si c'est un truc sympa, ça va être génial. Et ensuite j'ai lu la description de la vidéo YouTube et il y avait écrit que c'était un jeu tablette et smartphone en ligne et social. Et là d'un coup, je suis tout de suite retombé. Je suis tout de suite retombé d'un cran. Alors il faut savoir que dans ce trailer, en fait, il y a pas eu de jeu, enfin on nous a pas montré de jeu. Ça sortira en fait à l'été 2014, donc on a encore le temps de voir venir. Moi, bon, Je peux pas me prononcer là-dessus, mais c'est vrai que je trouve que le projet est pas super ambitieux, dans le sens où voilà, c'est tablette et smartphone, mais après je peux très bien être surpris, hein. C'est vrai que les jeux tablettes et smartphones, ça se développe de plus en plus et ça devient de mieux en mieux. Mais voilà.
Tu serais pas un peu bourré de préjugés, toi, monsieur Morbren, hein?
Disons que bon, un MMO sur tablette, social et sur smartphone, ça me fait surtout penser au truc de Zynga, quoi. Donc ouais,
C'est sûr qu'il part avec de sérieux handicaps. Hein.
Voilà. Donc après, c'est Firefly. Peut-être que ça peut apporter quelque chose de plus. On verra. Bon, voilà, je croise les doigts pour que ça soit sympa, mais je préfère pas trop me...
Ne rêve pas trop, ouais. Ça sert à rien.
Non, mais je rêve pas trop, c'est ce que j'essaie de dire là, en fait. Voilà. Je ne veux pas être trop optimiste.
Bon, par contre, là, il y a un retour qui a été annoncé cette semaine qui fait un peu plus envie,
ouais.
En tout cas en ce qui me concerne. Il s'agit du ninja de la saga Strider, qui revient parmi nous, mais par contre avec un changement, je crois, parce que au départ Strider c'est une série action, et ouais. Là ça va virer dans quoi, Morgan?
Bah ça, en fait, ça reste très très action, mais il y a des éléments en fait de Metroidvania. Il y a eu un trailer de gameplay de 7 minutes qui montrait, alors que c'était toujours très très action, mais en plus de ça, en fait, il y a des éléments dans les niveaux que vous devez trouver en fait pour débloquer certains passages. Et donc en fait, votre personnage, votre ninja, va s'upgrader en fait à chaque fois. Ça vous permet en fait de débloquer certains passages et de vous fighter contre certains ennemis que vous ne pouvez pas tuer en fait sans certains upgrades. Donc ça a l'air sympa, ça a l'air très dynamique et assez joli. Moi ça me parle vraiment, à savoir que Strider c'est une licence qui existe depuis 1989.
Et c'est une licence culte.
Ouais, de retour en 2014 sur toutes les plateformes imaginables sauf la Wii U. et les consoles portables. Donc,
et là, on comprend pas pourquoi non plus, hein, parce que, je veux dire, c'est certes le jeu est mignon,
ouais.
Mais ça reste de la 2,5D
oui.
HDifiée. Je veux dire, voilà, c'est pas comme si la 3D qui était affichée là-dedans était extraordinaire non plus, quoi. Donc, on
ça pourrait
pas.
Très bien sortir sur PS Vita et 3DS. Hein, mais
ouais.
Alors peut-être que ils vont avoir des produits dérivés sur console portable, c'est possible, mais en tout cas c'est annoncé sur PC, PS4, PS3, Xbox 360 et Xbox One.
Pendant ce temps, la Wii U. Et toi, TH, ça te fait envie ou pas tout ça?
Bah ouais, ça a l'air sympa. Enfin, moi, vous me dites juste Metroidvania, ça m'intéresse.
T'es comme moi, toi.
Ouais, la vieille école. Vous me dites juste ce mot magique, déjà, ça, tu m'intéresses. Et après, ouais, ce qu'on en voit dans la vidéo de gameplay, c'est assez joli. Ouais, donc à voir, je connaissais pas cette série du tout. Je vais garder un œil là-dessus et j'espère que le jeu sera bon pour avoir des retours lors d'un podcast là-dessus.
Bon, et maintenant on va terminer sur les déclarations de la semaine d'Ubisoft. Il faudrait qu'on mette un générique, vous voyez. Donc, les conneries d'Ubisoft cette semaine, c'est quoi?
Alors, la connerie, est-ce que c'est une connerie vraiment? Je pense que c'est de l'honnêteté, mais c'est un peu mal placé.
Disons que c'est l'honnêteté, mais l'honnêteté, ça fait pas toujours plaisir.
Exactement. Donc ici, en fait, ce sont des propos tenus par Tony Key, qui est en fait le vice-président du marketing et des ventes chez Ubisoft, qui annonce en fait, en gros, voilà, tout ce qu'on fait pour nos jeux, c'est qu'on veut en créer des licences. Et il va même plus loin, c'est-à-dire que je cite, il dit « Nous ne commencerons même pas si nous ne pensons pas qu'on peut créer une licence sur ce jeu. » Ça, c'est quand même assez fort et assez... Enfin, c'est assez dans ta face, c'est-à-dire que, voilà... On ne va pas faire de jeu si on ne peut pas faire une licence chez Ubisoft.
Même si c'est un petit projet, rien à foutre, il faut que ça puisse être exploité jusqu'à la moelle, quoi.
Très bien. Bah écoute, c'est Monsieur Key, c'est belle honnêteté. Par contre, je suis pas sûr que tu gagnes beaucoup de points auprès des joueurs en faisant ça.
Après, je veux dire, on sait tous très bien que tous les éditeurs font ça.
Bien sûr.
Enfin, tous les gros, en tout cas. Je veux dire, Electronic Arts l'a suffisamment prouvé à plusieurs reprises pour que, voilà... On sait très bien que tous les gros éditeurs, c'est comme ça. ATH.
Il nous apprend rien du tout, hein, sur sa déclaration. On l'a déjà vu avec l'essorage de Barm d'Assassin's Creed qui nous sort un par an. Les Prince of Persia, en veux-tu, en voilà. Splinter Cell, etc. Ubisoft, c'est vraiment des jeux à licence sur le très très long terme. Après, oui, c'est sûr que le type est honnête. Est-ce qu'on pourra lui reprocher ça? Non. Mais quand tu vois que des nouvelles licences vont être lancées, tu te dis finalement est-ce que t'as envie de l'acheter? Parce que moi je pense à Watch Dogs, je me dis s'ils me sortent le 1 et après il faudrait que j'achète le 2 pour connaître la suite, le 3, le 4, le 5, etc. Moi ça me fait chier d'acheter toujours un jeu, le même jeu par an en fait, avec juste le scénario qui change et 2-3 éléments de gameplay qui me rajoutent pour me faire plaisir.
Morane.
Ouais, après évidemment tout dépend de la perspective marketing autour de cette licence. Parce que tu parles de Assassin's Creed, c'est vrai, c'est un jeu qui sort tous les ans. En plus de ça, t'as des projets transmédia autour d'Assassin's Creed, t'as les comics, t'as les livres, t'as bientôt un film. Voilà, ça c'est vraiment de l'essorage de licence. Après, tu as aussi l'utilisation d'une licence, c'est-à-dire, genre, je sais pas moi, tous les 2 ans, tous les 3 ans, avec un truc qu'on attend vraiment, t'as aussi des licences qui se font attendre 5 ans, avant d'avoir une suite. Je pense à GTA, par exemple.
Mais là, c'est pas Ubisoft.
C'est... Non, non, mais c'est, en fait, je pense que la vraie perception négative de la licence vient de son exploitation industrielle, en fait.
C'est
Ouais,
ça.
parce que là, en fait, le souci, pour le moment, moi, mon impression, c'est que ils savent pas où s'arrêter, en fait.
C'est ça.
Je veux dire, Assassin's Creed, moi, j'ai pas l'impression que ça va s'arrêter un jour, hein, vu comment c'est parti. Et c'est comme ça avec toutes leurs licences, sauf quand elles marchent plus. T'as une licence comme Beyond Good and Evil, ça a pas marché, donc ils arrêtent. Vraiment, ça pose un problème, en tout cas, en termes de créativité, je trouve, parce que,
Oui.
du coup, le scénario, au bout d'un moment, vu qu'on l'exploite jusqu'à la moelle, ça finit par tourner en rond. S'ils exploitaient les licences comme un GTA, où effectivement on prend le temps pour faire un jeu, ou s'ils exploitaient les licences en disant, ok, on a un scénario, c'est prévu pour 3 épisodes, on s'arrête à la fin des 3 épisodes, point final, ok. Mais là, c'est, on en sort un par an, on en sort un par an, on en sort un par an, ça devient n'importe quoi. Enfin, moi, je pense que, certes, c'est bien de vouloir pérenniser son investissement, d'autant plus que je pense qu'Ubisoft, c'est pas une boîte à qui on peut reprocher de ne pas prendre certains risques
Oui.
sur de nouvelles IP. Justement, c'est un des éditeurs qui, je trouve, a sorti le plus de nouvelles choses intéressantes, en tout cas. Bon, c'est mon point de vue, hein. Le souci, c'est qu'après, bah voilà quoi, la manière dont ils exploitent, je trouve pas ça génial, moi.
Et après, en fait, moi, ce qui peut être gênant sur le long terme, c'est qu'ils produisent un nombre de plus en plus important, en fait, de jeux triple A. C'est-à-dire que voilà, tous les ans, il y en a au moins deux. De jeux triple A, et si ça marche pas, ça va poser problème au bout d'un moment. C'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, qu'ils ont mis en pause la licence Prince of Persia. C'est-à-dire que au bout d'un moment, en termes de financement, il faut vraiment avoir les reins solides pour assumer tout ce financement-là. J'imagine que Watch Dogs, du coup, c'est ce qu'ils nous le disent en fait. Ils sont en train de nous le dire. Watch Dogs est amené à devenir une licence. Alors j'espère pas que ça sera une licence tous les ans. Après, peut-être qu'ils vont être amenés à panacher en fait leur licence, leur sortie de licence. C'est-à-dire qu'une année t'auras Watch Dogs, l'année d'après t'auras Assassin's Creed, l'année d'après t'auras encore un Watch Dogs. Enfin, des trucs dans ce genre-là. Par contre, faut qu'ils fassent attention parce que voilà, les porte-monnaies des gens ne sont pas forcément extensibles et au bout d'un moment, les licences se fatiguent. Ils l'ont vu avec Prince of Persia d'ailleurs.
Ne pas refaire le phénomène Rock Band,
Oui.
Guitar Hero, voilà quoi. ATH.
D'ailleurs, tu parlais justement de Assassin's Creed et il y a une déclaration qui a été faite il y a quelques mois. Ils ne pensaient pas arrêter Assassin's Creed jusqu'à ce que les joueurs s'en lasseraient. Donc en gros,
C'est ça.
tant que le jeu fera des ventes, ils continueront à sortir un par an quoi. Après, comme vous dites, hein, moi qui sorte une série, un scénario établi sur 3 épisodes et qui me disent que ça sera comme ça, parce que finalement, hein, les Mass Effect, toutes les séries, c'est pareil. Sauf que le jeu ne sort pas tous les ans. Et là, j'ai senti qu'ils ont vraiment trop tiré sur la corde et j'ai pas envie que, voilà, tous les ans, je suis obligé de suivre ces séries-là, alors que j'aimerais bien prendre un petit peu de recul, comme ça, quand ça revient, je l'apprécie un peu plus, etc.
Qu'on se retrouve pas avec les FIFA, les PES, du jeu d'aventure, du jeu d'action,
Voilà,
voilà.
ouais. Exactement.
Bon, je vous propose qu'on referme ce dossier.
Oui.
On va passer sur les dates vite fait, Mandren. Alors, les passionnés de Japan RPG seront très heureux d'apprendre qu'Etrian Odyssey 4 sort en août, c'est ça?
Le 30 août sur 3DS, ouais, la sortie européenne. Ça fait plaisir quand même d'avoir un RPG japonais qui arrive sur console portable, donc voilà, on va en profiter.
Je rappelle, c'est un RPG à la japonaise en vue à la première personne. Par contre, je vous préviens, c'est assez difficile. Enfin, je sais pas pour le dernier, mais les premiers, c'était assez velu. Donc, soyez prévenus. Voilà, voilà. Ensuite, The Division. Alors là, c'est pour...
La fin d'année 2014. Donc, un petit peu, voilà, ce qu'on attendait, c'est-à-dire que... On a la, l'habitude d'avoir en novembre-octobre les Assassin's Creed, les Watch Dogs, et ben voilà, The Division va prendre la, cette place là-bas en 2014, et avec une sortie pour The Crew, donc vous savez, la nouvelle, le nouveau jeu de voiture chez Ubisoft, qui sortira au premier trimestre 2014.
Et je rappelle donc, The Division, c'est l'espèce de jeu de tir à la troisième personne, on sait pas trop si c'est un MMO, mais bon, voilà.
En open world, avec des éléments de multijoueur intégrés au jeu.
Voilà. Ils sont assez flous pour le moment, mais enfin, oui. C'était un des jeux qui avait marqué le 3, en tout cas. Bon, ensuite, c'est terminé pour l'actualité cette semaine. On va passer au jeu du moment. Et le jeu du moment, cette semaine, c'est un jeu qui a fait des ravages dans la rédaction. Il s'agit de Rogue Legacy. Ah, j'adore cette musique, la musique du début de niveau de Rogue Legacy. Tu l'as dans la tête, c'est horrible, après, pendant des jours et des jours, elle ne te quitte pas. Donc, Rogue Legacy, qu'est-ce que c'est? Rogue Legacy, j'ai envie de dire, c'est un espèce de Castlevania-like, mais les tout premiers Castlevania, hein, les jeux d'action, hein, vraiment, parce qu'il n'y a pas vraiment de Metroidvania là-dedans. Hein.
Oh.
C'est un jeu vraiment orienté action, où en gros vous allez débarquer dans un donjon qui est généré aléatoirement. Mais là, où Rogue Legacy commence à créer sa propre sauce, j'ai envie de dire, Mandren, c'est quand on meurt. Alors, ouais. Mandren, qu'est-ce qui se passe quand on meurt dans Rogue Legacy?
Alors en fait, dans Rogue Legacy, il y a Legacy qui veut dire héritage. Et le principe en fait du jeu, c'est que vous incarnez les membres d'une même famille, et à chaque fois que vous mourrez en fait, le personnage que vous choisissez ensuite, c'est un des descendants du personnage qui vient juste de mourir. Et ces descendants-là en fait vont avoir des traits différents. Donc ça peut très bien être quelqu'un qui est très puissant, qui est très fort, ça peut très bien être quelqu'un qui est fluet, mais ça peut aussi être des traits un peu étranges, comme on va citer, je sais pas moi, la presbytie, la myopie, le daltonisme, des choses dans ce genre-là.
La maladie de Gilles Latourette, voilà.
Par exemple, qui en fait à chaque fois, ces traits... apporte quelque chose en jeu. C'est-à-dire que, voilà, quelqu'un qui est myope, vous allez voir flou tout autour du personnage. Enfin, de loin, autour du personnage. Quelqu'un qui est presbyte, il va voir bien de loin, mais mal de près. Donc, c'est-à-dire que vous aurez une boule autour du personnage qui va être flou. Et donc, voilà, tous ces traits-là apportent quelque chose en plus au niveau du gameplay. Et
tu exagères un peu.
Enfin, disons
genre,
que
genre ouais. Tourette, je vois pas ce que ça change sur le gameplay. Hein, tu m'excuseras.
Oui, non.
Ça fait rigoler.
C'est vrai que il y en a certains. Alors parfois, il y en a qui sont complètement injouables. Il y a un trait, j'ai oublié son nom, qui fait que tout est à l'envers. C'est-à-dire que le haut est en bas et la droite est à gauche. C'est juste impossible d'y jouer. Mais voilà. Bon, la plupart, en tout cas, de ces traits. Vous force en fait à vous adapter en termes de gameplay et à changer votre attitude, d'autant plus que ces traits sont à combiner avec la classe du personnage, parce que en plus des traits, vous avez les mages, les paladins, les berserkers, voilà, des classes qui sont somme toute classiques, mais combinées à ces traits-là apportent un gameplay souvent différent en fonction de chaque descendant.
Enfin, les classes, on va dire que ça dépend. Les classes de base, effectivement, sont assez classiques.
Oui.
Après, quand tu commences à débloquer les classes de niveau un peu supérieur, ouais, genre la classe qui, à chaque fois qu'elle tue un personnage, va augmenter son nombre de PV maximum.
Ouais, le vampire.
Voilà, c'est, il y a des classes vraiment assez particulières au fur et à mesure que tu augmentes de niveau. ATH, tu as une question, je crois.
Si on arrive dans le jeu et qu'on hérite d'un héros avec un truc totalement injouable, comme l'a dit tout à l'heure Mandren, est-ce qu'on n'a pas envie de le suicider directement, de le sauter dans le premier trou venu, pour jouer avec un autre héros qui a pas cet handicap?
Ce qu'on n'a pas dit encore pour le moment, c'est que à chaque fois que ton personnage meurt, tu as le choix entre trois descendants.
Mmh. Oui.
Donc tu choisis celui qui te convient le mieux. Après, bon, c'est vrai que si vraiment tu tombes sur trois descendants pourris, comme ça peut arriver, peut-être que le gars qui a pas envie de perdre de temps va faire exprès de suicider. Mais moi, personnellement, je joue pas comme ça, parce que justement, c'est ça qui est marrant, tu vois.
Ouais.
Bon, sauf vraiment le trait qui inverse le haut et le bas et la gauche et la droite, ça je le peux pas.
C'est juste impossible.
Je suis désolé, ça je le tue direct. Mais le reste, en général, moi je le joue parce que, justement, c'est ce qui fait l'intérêt du jeu, c'est ce qui fait son challenge, quoi. Enfin, je sais pas comment tu joues, toi, mais
oui,
en vrai, moi, en général, même si j'ai un trait qui est assez chiant, je le garde quand même.
Bah, évidemment, ça fait partie du challenge, et puis, tu te dis, si j'y arrive, je suis quand même sacrément fort, tu sais. Il y a une espèce de satisfaction à réussir... une partie de château avec avec un personnage qui est particulièrement difficile et tu te dis ah ouais quand même j'ai réussi à faire ça avec ce personnage là alors que d'habitude je joue très mal avec. Et il faut savoir qu'en fait à chaque run que vous commencez, donc avec chaque personnage différent, vous recommencez un château qui est généré aléatoirement. Donc évidemment vous savez pas exactement où vous allez et les salles que qu'on vous réserve. Donc Ça fait partie aussi du charme du jeu d'avoir voilà, c'est une expérience différente à chaque run, sauf si vous choisissez de bloquer un château parce que voilà, vous avez beaucoup avancé dans son exploration et là ça peut être stratégiquement important de bloquer ce château.
Bah oui, parce que en fait si vous voulez, quand vous avez repéré un boss, vous essayez le boss, vous crevez. Plutôt que de vous emmerder à recommencer un château aléatoire et de rechercher le boss, de reperdre des points de vie en cherchant ce boss, etc., vous pouvez dire, moi, je paye pour que le château reste identique d'un descendant à un autre, sauf que, déjà, effectivement, il faut payer, mais en plus, tu gagneras moins d'or. T'as un malus au niveau de l'or, qui fait que voilà, c'est peut-être pas forcément rentable parce que mine de rien, le boss quand même, ça rapporte un joli pactole et c'est peut-être intéressant, tu vois, d'essayer ouais, de l'avoir du premier coup, quoi. Ou en tout cas de l'essayer de l'avoir sur une run où t'as pas eu le même château avant, quoi. Parce que du coup, tu gagnes vraiment tout l'argent que t'aurais dû gagner sur ce boss-là. Et je sais que l'argent t'en as besoin dans ce jeu-là. Je voulais rajouter une chose par rapport aux traits dont on a parlé tout à l'heure, parce que j'avais l'impression qu'on donnait le sentiment que tous les traits étaient forcément pénalisants.
Oui.
Alors qu'il faut bien voir que un personnage peut avoir à la fois des traits pénalisants et aussi ses avantages.
Absolument.
Par exemple, je sais qu'il y a des personnages qui ont la capacité de régénérer leur mana chaque fois qu'ils tuent quelqu'un, par exemple, tu vois. Ça fait partie de leur trait. Parfois, il y a des personnages vraiment qui ont des malus, mais qui ont aussi des bonus très intéressants. Donc, il faut jouer avec ça. Et donc, on en revient après au fait qu'il faut acheter des améliorations, etc. Est-ce que tu prends un petit plus, Morvan?
Oui, alors bah justement, tout cet or en fait que vous gagnez dans chaque run, en fait, vous sert à débloquer un certain nombre de choses. Donc, des améliorations, c'est symbolisé en fait par... c'est un tech tree, en fait. C'est qui est représenté par le château.
C'est un arbre de compétences.
C'est ça.
Je parle en français pour nos éditeurs qui ne parlent pas
pardon,
en anglais.
et en fait, donc voilà, ça représente, vous pouvez avoir plus de santé, taper plus fort, plus de mana, mais aussi vous pouvez débloquer des classes différentes. Donc, par exemple, vous pouvez choisir d'améliorer votre chevalier qui va devenir paladin, d'améliorer votre mage pour qu'il devienne un archimage, et débloquer une nouvelle classe, par exemple, débloquer le ninja, et améliorer toutes ces classes-là, qui, voilà, au bout d'un moment, quand votre arbre de compétences est complètement plein, vous avez des personnages qui sont assez balèzes. En plus de ça, votre or peut être utilisé pour acheter de nouvelles armes, de nouvelles armures, mais aussi des runes que vous débloquez dans les niveaux, que vous trouvez par hasard en fait dans les coffres qui sont disséminés dans les dans les donjons. Et ça, en fait, ça va vous permettre de d'améliorer certaines caractéristiques de vos personnages, donc évidemment la défense, la mana, les dommages, mais aussi les runes peuvent être utilisées pour avoir des capacités spéciales, du genre courir plus vite, du genre choper des...
Le triple saut.
Voilà, du triple saut, du vol aussi, et aussi, tu t'en parlais aussi, de la classe vampire, il y a une armure vampirique qui, à chaque fois que vous tuez quelqu'un, vous donne des PV. Donc évidemment, stratégiquement, vous pouvez vous faire tout le set d'armure vampirique, et voilà, si en plus de ça, vous avez la classe vampire, bon, vous avez quelque chose qui fait sens en termes de stratégie.
ATH.
Oui, vous parlez de Castlevania tout à l'heure, au début, des premiers Castlevania en tout cas. J'aimerais bien savoir est-ce que le jeu était aussi exigeant que avaient pu l'être les anciens jeux de cette
époque. Oh oui.
Oui.
Non. Je suis pas tout à fait. Moi, alors là, pour le coup, je pense qu'on va pas être d'accord avec mon rêve.
Clash.
Je pense que une fois que tu connais le pattern des boss, c'est a finger in the nose.
Ouais.
Quand tu le connais pas, c'est chiant effectivement. Mais pour comparer à un Castlevania, ou même quand tu connais le pattern, tu te fais défoncer la gueule. C'est pas tout à fait la même chose, on va dire.
Ouais. Alors en fait, il est exigeant, je pense. Alors peut-être pas sur les boss. Par contre, il y a certaines salles qui sont assez velues à passer, et il y a aussi un aspect, comment dire, assez punitif dans Rogue Legacy, et pas forcément très gratifiant dans le sens où parfois t'as une salle super dure, t'arrives à la passer, et normalement t'attends une récompense à la fin de cette salle. Et là, pas du tout. Donc il y a un aspect assez injuste en fait dans Rogue Legacy, qui est pas forcément aussi exigeant que Castlevania.
Si tu veux, c'est pas Faster Than Light où quand tu meurs, tu sais que c'est ta faute. Quoi.
Voilà. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des moments où tu dis ah j'étais à deux doigts, mais voilà, le jeu t'a pas fait de cadeau. Après,
c'est juste complètement abusé, quoi. Ouais. Faut dire ce qui est. Moi, il y a des passages, j'ai fait non, stop, là, les mecs, vous me faites une série de passages super chiants, tu te fais chier aller jusqu'au bout, et au final, il y a rien, quoi. Ça te dégoûte complètement, ouais. Quoi.
Mais bon, quand tu dis ça te dégoûte complètement, c'est pas non plus au point de Don't Starve quand tu meurs après 28 jours, t'as plus envie de toucher au jeu.
Ouais, c'est pas tout à fait.
Parce que bon, là, en fait, si tu veux, Rogue Legacy, souvent le run, ça fait jamais plus de 10 minutes, un quart d'heure. Sauf si t'es vraiment très 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 bon, et ça peut aussi durer 2 minutes. Donc ce qui fait que t'as des runs qui sont assez courts, et de toi-même en fait tu vas recommencer derrière. Ce qui n'est pas pareil qu'un Faster Than Light où généralement les runs sont d'une heure et demie quand ça se passe bien et que tu vas jusqu'au bout et que tu te fais défoncer par le boss final. Là c'est quand même beaucoup plus court, et donc forcément en termes de rejouabilité tu y reviens beaucoup plus rapidement en fait. Et donc voilà, à mon avis il faut du skill pour certains passages, mais je pense que les personnes comme moi qui n'ont pas forcément beaucoup de talent peuvent beaucoup s'amuser sur Rogue Legacy, parce que justement voilà, le jeu fait en sorte, quand tu as des niveaux très élevés et que ton arbre d'amélioration est déjà bien en route, et il faut beaucoup d'argent pour débloquer le reste, en fait le jeu s'adapte, c'est-à-dire que tu vas réussir à gagner plus d'argent en fait sans t'en rendre compte. Au début, quand ton premier run, si tu fais 500 pièces d'or, t'es très très heureux. Mais au bout d'un moment, en fait, tu fais facilement 2000 pièces d'or sur certains runs. Donc si tu veux, il y a une espèce de jauge d'adaptabilité du jeu qui permet de pas trop galérer quand même. Je pense que ce qui amène la galère, c'est surtout les personnages qui peuvent être difficiles à manier.
Alors, moi, j'aimerais poursuivre ce test en faisant un peu notre bilan sur les points positifs et négatifs du jeu.
Ouais.
Moi, dans les côtés positifs, j'ai envie de dire, je dirais les classes qui sont vraiment bien pensées, je trouve, ouais. Qui sont très fun. Vraiment, jouer à Ninja, c'est pas pareil que jouer à Mage, quoi. C'est vraiment pas du tout le même gameplay, quoi. Le Mage, c'est vraiment une classe qui est orientée en combat à distance. Certes, qui fait du gros dommage aussi, mais c'est pas du tout comme le Ninja qui fait aussi du dommage, mais vraiment au corps à corps. Ouais. Il y a des classes qui sont vachement différenciées, et j'ai trouvé ça très bien. Ce que j'ai trouvé très bien aussi, c'est que, comme tu l'as mentionné, le rythme de jeu est juste parfait. Contrairement, justement, tu le citais, un Don't Starve, où tu te fais chier pendant je sais pas combien de jours à monter ton truc, etc. Et d'un coup, paf, on te fait recommencer tout au début, ça te dégoûte complètement du jeu. Ouais. Là, les runs, elles sont vraiment tellement bien calibrées au niveau du temps, si tu veux, que tu y reviens effectivement très volontiers. Après, dans les reproches que je lui ferais, moi, déjà, je trouve que c'est pas énormément varié au niveau des ennemis.
Oui.
Tu retrouves souvent les mêmes versions d'ennemis en version plus gros, quoi.
En effet.
Alors, t'as le petit fantôme qui fait les petits machins de glace, t'as le fantôme moyen qui fait les trucs moyens de glace, et t'as le gros fantôme qui fait les gros trucs de glace. Alors, certes, ils en rajoutent un peu parce qu'il y a des décors différents qui s'ajoutent au fur et à mesure du jeu. Il y a 4 décors différents, si je me souviens bien.
Oui.
Il y a un total de 5 boss, donc 4 pour ouvrir la porte qui conduit au boss final. Et même s'ils en rajoutent au fur et à mesure des nouveaux décors, il n'y en a pas tellement que ça, en fait. Il y en a même très peu.
Justement, en fait, moi, c'est un reproche que je ferais aussi au jeu au niveau des décors. C'est-à-dire que pour réussir à s'en sortir dans ces nouveaux décors-là, il faut déjà avoir beaucoup levelé. Parce que sinon tu peux pas, enfin c'est juste impossible de passer ça en début de partie. Moi ça m'arrive souvent de dire ah tiens je me voilà dans la forêt, sauf que je suis niveau 5, c'est impossible que j'y passe. Du coup je reviens dans le château parce que c'est si t'es pas à un certain niveau c'est juste impossible que tu passes ces passages là parce que les ennemis sont trop forts, sont trop résistants en fait et te tuent en très peu de coups. Donc ça c'est alors je sais pas si c'est vraiment un problème, mais c'est dommage d'être cantonné en fait au château pendant je sais pas moi les 3 premières heures de jeu environ. C'est je trouve que c'est.
Tu sais, y en a ils sont cantonnés au château pendant les 5 premières minutes. Hein.
Bon. Oui non d'accord, mais bon après c'est peut-être aussi mon style de jeu, hein, mais bon voilà c'est un reproche que j'aurais fait aussi. Y a pas assez de décors et puis on reste un peu longtemps au niveau du château.
Autre reproche que je ferais, certains traits sont complètement cheatés. Notamment le trait nanisme.
Ouais.
C'est juste complètement cheaté. Tous les passages secrets du jeu sont pensés pour les nains. Franchement, dès que tu as un nain, tu le prends parce que comme il a une hitbox qui est beaucoup plus petite, oui. C'est beaucoup plus facile d'éviter les projectiles. Alors certes, il a une allonge de merde. Mais franchement, le fait qu'il soit pratiquement impossible à toucher, ça compense tout, d'autant plus que tu peux avoir tous les secrets grâce à ça.
Et
quoi.
Pour les boss, c'est juste génial hein, d'avoir un nain, c'est parfait. Hein.
D'une manière générale, je trouve que la génération aléatoire, il y a encore des trucs qui fonctionnent pas très bien, je trouve. Mmh. Alors même si effectivement il y a la possibilité de revenir après pour avec le bon perso, oui. Avec la bonne magie pour débloquer le bon truc, ça reste chiant parce que par exemple, il y a des coffres que tu ne peux ouvrir que si tu fais certaines actions prédéfinies.
Oui.
Par exemple, une action prédéfinie, c'est tuer tous les ennemis. Mmh. Sauf que tous les ennemis sont planqués derrière un mur et qui sont injoignables sans un sort très précis.
Ouais. Ça fout un peu les boules. C'est assez frustrant.
Alors certes, c'est vrai qu'il y a la mécanique qui est pensée comme ça et qui dit que si tu veux absolument cet item-là, tu recommences avec un autre personnage, avec le bon trait, sauf que malheureusement, le bon trait, tu l'as pas à tous les coups. Mm. C'est ça le souci, c'est que même si tu crèves, le trait dont t'as besoin, tu l'auras pas forcément au run d'après.
Oui.
Donc ça, des fois, c'est extrêmement frustrant à cause de ça. Donc je trouve que devrait y avoir quand même une corrélation par moment entre le donjon aléatoire que tu as généré précédemment et les nouveaux personnages que tu as là, quoi.
Oui, c'est sûr.
ATH, je crois que tu avais des questions.
Oui, vous parlez de legacy, d'héritage, etc. Mais est-ce qu'il y a un scénario dans tout ça ou bien non, pas du tout?
Il y en a un, c'est très minimaliste et j'ai envie de dire qu'on s'en fout.
Oui, c'est un...
Moi, je sais pas ce que t'en as pensé, mais... Alors, certes, ça met une petite ambiance qui est sympathique, mais bon, c'est pas cœur du jeu, quoi.
En fait, il transparaît dans des journaux, en fait, que tu trouves à l'intérieur des donjons, Bon, la plupart du temps, c'est assez marrant, hein, ces petits journaux. Mais le plus souvent, en fait, ce dont t'as envie, c'est juste continuer dans le niveau et ça arrive de juste pas les lire, en fait.
Alors, là où j'ai trouvé intéressant, par contre, c'est qu'en fait, les journaux sont là pour te guider sur la marche à suivre.
Oui.
Il faut bien les lire parce que tu te rends compte que ils te disent par quel ordre il faut faire le château, en fait. Parce que au départ, c'est pas forcément évident. Alors que si tu lis le journal, en fait, tu sais tout de suite où il faut aller.
Quoi. Ouais.
Donc voilà, ça, je trouve quand même que c'est pas mal pensé à ce niveau-là, même si effectivement, c'est pas non plus super bien écrit, quoi, qu'on soit clair. Bon, Morren, tes qualités, défauts.
Bah, tu les as à peu près toutes citées. Moi, ce que j'aime bien, c'est la jauge de progression. Au début, on n'est pas forcément très très fort, mais voilà, plus ça va en fait, plus le jeu force le skill parce qu'il faut quand même récupérer pas mal de pièces d'or. Et en fait, si vous n'avez pas assez de pièces d'or pour acheter quoi que ce soit, bah vous avez, quand vous entrez dans le prochain donjon, il y a un espèce de connard qui vient vous récupérer toutes vos pièces d'or et vous les toucherez plus après en fait.
Ouais. En fait, c'est la mort qui vient vous narguer.
C'est
d'ailleurs, c'est une grosse référence à Castlevania, hein,
oui.
Je note. C'est la mort qui vient vous narguer. De toute façon, t'auras pas besoin, tu vas crever. je peux tout prendre. Hein.
Donc voilà. Donc en fait, à chaque run, vous êtes obligé de faire mieux. De toute façon, si vous faites pas mieux, en fait, ce que vous aurez récupéré, en fait, ne vous servira à rien, puisque vous aurez pas assez d'argent pour acheter une amélioration ou une nouvelle arme. À savoir qu'à chaque fois que vous achetez une nouvelle amélioration, les améliorations qui vous restent deviennent plus chères. Donc voilà, il y a un espèce de cercle vicieux qui se met en place et voilà. C'est...
Ouais, mais d'un autre côté, tu gagnes de plus en plus de
oui.
pièces d'or dans le donjon,
ouais.
Et en plus, si tu débloques au bout d'un moment des traits qui te permettent
ouais.
de négocier un peu avec la mort à l'entrée.
C'est
donc,
ça.
Voilà.
Donc voilà, moi j'aime bien le fait que voilà le jeu quand même t'encourage à devenir meilleur et j'aime beaucoup tous ces essayer de m'en sortir avec ces salles un peu bizarres où il y a des parfois t'as vraiment l'impression de jouer à un Dodonpachi en fait t'as des projectiles un peu partout t'essaies de naviguer entre les projectiles c'est assez cool et quand t'y arrives t'es super content donc voilà il y a c'est punitif certes par certains aspects mais c'est aussi très très gratifiant de réussir un donjon dans Rogue Legacy. Donc voilà. Bon, je pense que t'as dit un petit peu tous les points négatifs et positifs que j'aurais cités au niveau de Rogue Legacy.
Juste un mot sur la durée de vie quand même.
Oui.
Alors en gros, ça peut aller de 18 minutes. Moi, c'est le score le plus bas que j'ai vu
sur internet
jusqu'à maintenant.
Ouais.
Infini quoi.
Oui.
C'est typiquement le jeu, si tu veux, qui a une replay value extraordinaire pour peu que tu accroches au concept.
Oui.
Je crois que Mamie, d'ailleurs, c'est dommage qu'il soit pas là, mais bon, les absents ont toujours tort, n'est-ce pas? Je crois qu'il a une soixantaine d'heures, ou un truc comme
ouais,
ça,
ouais.
Enfin, il y a passé des heures et des heures.
Il a saigné le jeu, ouais.
Donc voilà, franchement, si vous aimez les Castlevania-like, si vous aimez l'aléatoire, si vous aimez l'humour aussi, alors... Ça, par contre, je l'ai pas cité ni dans les points positifs, ni dans les points négatifs,
ouais.
Parce que c'est un humour très particulier.
Très potache.
Qui ne plaira pas à tout le monde. Hein. Par exemple, il y a un humour sur l'épée, je ne sais pas ce qui se passe, mais ils aiment beaucoup ça. C'est vraiment un humour très très particulier, donc il y en a qui trouveront ça complètement naze, il y en a qui accrocheront.
Ouais.
Donc voilà, c'est selon quoi. Je vous conseille d'aller tester la démo pour le coup, pour vous
oui.
faire une idée, parce qu'il y a une démo disponible.
La démo est très très longue d'ailleurs.
Ouais.
Je l'ai fait, et j'ai joué au moins 2-3 heures. Et elle m'a toujours pas arrêté en fait. Donc j'ai l'impression qu'elle est limitée au premier château en fait. Donc profitez-en pour découvrir le jeu parce que c'est vraiment très sympa. Et le jeu est pas cher, hein, c'est 14 € sur les plateformes de téléchargement. Donc voilà, je pense que c'est un bon plan.
Dans tous les cas, un jeu auquel on a énormément accroché et je fais une mention spéciale pour terminer sur la bande son,
oui.
qui moi, je pense que c'est une bande son, je vais m'en souvenir longtemps. Chapeau bas. C'est une bande-son un peu rétro et tout, mais d'une manière générale, c'est un jeu qui est assez rétro. Et franchement, si vous aimez les Castlevania-like, je pense que c'est fait pour vous. Quoi. Voilà, voilà. ATH, aucune question?
Bah non, je pense que vous avez bien résumé l'ensemble du jeu. Ah si, peut-être, tout à l'heure on en parlait, c'est donc le jeu, il est totalement en anglais, c'est ça?
Oui.
D'accord.
Oui. Mais bon, après, le niveau d'anglais, c'est pas non plus...
Il n'y a pas vraiment besoin de comprendre... vraiment tout ce qui se passe. Après, c'est pour les traits, c'est bien de savoir ce qu'on prend quand on choisit. Ouais. Mais bon, la plupart du temps, on s'y habitue en fait. Parce que même moi, qui parle anglais, il y a certains traits que je comprenais pas et que, en fait, tu les vois et tu comprends ce que c'est, quoi.
Ouais, de toute façon, il y a.
Tu le prends une fois, tu prends le trait qui te rebaptise bien, tu vois, tu sais que celui-là, il faudra pleurer ensemble.
C'est ça.
Voilà. Donc c'était juste pour les auditeurs qui soient au courant si ça les intéressait ou pas. Et au pire, ils joueront avec Google Traduction à côté.
Sachant qu'on est loin de vous avoir cité tous les traits,
voilà.
Il y en a qui sont très 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 drôles.
En effet.
Voilà. Donc Rogue Legacy, un jeu qu'on vous recommande très chaudement, Game Info. Ça se mange sans fin.
Ouais.
Bon, ensuite, on va terminer ce podcast sur un point culture de bon gros blockbuster triple A. Un blockbuster qui n'est pas sorti, je crois.
Qui va juste sortir, ouais. Ça sort le 24 juillet.
Et ça s'appelle
Wolverine, le combat de l'immortel.
Volcan!
Merci.
Il est magnifique, Yoshida. Garde-le pour moi. Un jour, je viendrai le prendre.
Mon maître se meurt. Il tient à vous remercier de lui avoir sauvé la vie il y a toutes ces années. C'est un honneur que de rencontrer Wolverine.
Ce n'est plus ce que je suis.
Après-guerre, l'entreprise familiale est devenue la plus grande du Japon. Ces innovations ont sauvé des millions de vies.
J'aimerais t'offrir un cadeau, Logan. Tu as assez lutté, il est temps d'en finir. Tes pouvoirs de guérison peuvent être transmis. Laisse ton fardeau à un autre. Logan-san, je peux te rendre mortel.
Crois-moi, mon pote, je suis pas un exemple à suivre.
Je ne suis pas prêt à mourir.
Vous êtes blessé.
T'arrêtes pas. Je ne guéris plus. C'est elle qui m'a fait ça.
Maintenant, ça n'est plus qu'un homme.
Hé, mon pote. Vous êtes quoi?
Un chimiste, capitaliste, une vipère.
Tu lis l'avenir, c'est ça?
Je t'ai vu mourir.
Alors qu'est-ce que c'est? Bah c'est en fait le nouveau film qui est consacré entièrement au personnage de Wolverine, qu'on connaissait avant sous le pseudonyme de Serval en français, un des X-Men les plus connus, hein, tout simplement.
Le plus connu, qui, je pense même.
C'est le plus connu, ouais, c'est le X-Men le plus connu, qui avait eu droit à un film pourri qui lui était consacré, c'était X-Men Origins Wolverine, qui était sorti en 2008, si je ne m'abuse, et qui était vraiment pas bon, enfin qui était bon.
Moi je dirais une grosse merde.
Voilà, donc bon, il faut dire que je suis arrivé donc sur Wolverine, le combat de l'immortel, donc qui n'est pas vraiment la suite. En réalité, c'est ce film-là prend en fait ses fondations à la fin d'X-Men 3, alors que X-Men Origins Wolverine se déroulait avant le premier X-Men, puisque c'était un préquel, celui-là se déroule en fait après les événements de X-Men 3. Donc on retrouve Wolverine, alias Logan, qui vit reclus au fin fond de l'Alaska, jusqu'au jour où il y a une étrange japonaise armée d'un katana qui vient le chercher pour l'emmener au Japon afin de faire ses adieux à une vieille connaissance du nom de Yashida. Alors ce monsieur, en fait, il l'a connu à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, et c'est devenu un vieillard à l'article de la mort, qui est un patron d'une grande entreprise, une des plus puissantes de l'archipel japonais, et donc Wolverine est propulsé dans un espèce de panier de crabes qui se dispute l'héritage de la compagnie Yashida, et au même moment, en fait, le mutant va perdre ses pouvoirs de régénération instantanée, et... il va donc connaître pour la première fois ce que c'est qu'être vulnérable. Parce que, voilà, vous savez que Wolverine, c'est... au-delà d'avoir un squelette en adamantium, c'est quelqu'un qui régénère instantanément. Et évidemment, vous lui enlevez ça, ça devient un personnage totalement différent et qui se bat pas du tout de la même façon.
Bah, déjà, il peut plus utiliser ses griffes, j'imagine.
Il utilise ses griffes, si.
ouais, alors il va falloir m'expliquer comment il fait pour passer voiture à chaque fois que... Bref, ça me paraît très bizarre.
C'est vrai que ça pour le coup, c'est... Alors en fait, c'est pas qu'il ne se régénère plus, c'est qu'il régénère beaucoup moins rapidement.
Mandan a trouvé l'astuce.
Et donc du coup, en fait, voilà, il prend une balle, la balle elle reste à l'intérieur de son corps. Ce qui, à l'époque, n'était pas faisable. Il ressortait la balle de son bide ou ce que tu veux et il allait très bien 30 secondes après. Là, c'est plus le cas. Donc ça amène une action différente en fait pour le personnage qui devient d'un coup vulnérable et on se prend un petit peu à se demander mais est-ce qu'il va survivre en fait à ce film.
Suspense.
Donc c'est un énorme film d'action. C'est presque non-stop comme on le fait maintenant depuis les récentes années. C'est très rare d'avoir des petits moments de scénario. Il y a énormément d'effets spéciaux qui sont souvent pas mal faits, sauf une scène que je trouve un peu moins bien faite. Voilà, vous la reconnaîtrez, je pense, que quand vous verrez le film. C'est de l'action assez bien menée, qui n'est pas que autour de Wolverine, parce que bon, c'est un film qui est aussi assez japonisant dans son esthétique et aussi dans son action.
Par contre, on est d'accord, ce n'est pas un film X-Men.
Alors, il n'y a pas du tout les X-Men dedans. Il n'y a que Wolverine. D'accord. Il y a des mutants à l'intérieur, mais il n'y a pas de X-Men. Donc, il n'y a pas le professeur Charles Xavier, il n'y a pas, voilà. Toute l'équipe X n'est pas là. Par contre, voilà, c'est centré évidemment autour de Wolverine. Ça parle pas du tout de ses origines, puisque ça c'est déjà fait, mais ça parle de ce qui se passe après les événements de X-Men 3. Alors j'imagine qu'il y a prescription et que je peux dire ce qui se passe après.
Spoiler, revenez dans une minute.
Ouais, revenez dans 30 secondes. Il s'est passé quelque chose avec le personnage de Jean Grey.
Mais non.
À la fin de X-Men 3. Et évidemment, Wolverine est en face de ses démons, entre guillemets. Il essaie de gérer sa... voilà, disparition de sa petite amie. Et donc on le prend à ce moment-là, en fait. Au début du combat de l'immortel. Et du coup, le scénario est un petit peu bâtard autour de ces volontés-là, en fait. On a un personnage principal qui est tiraillé par les événements précédents et son envie d'avancer, en fait. Et du coup, ça, au départ, on se dit, ouais, bon, il est dépressif, en fait. Qu'est-ce qui lui prend à Wolverine? Et c'est un peu étrange pour un personnage de cette trempe-là d'avoir cette espèce de réflexion autour de est-ce que ma vie vaut encore la peine d'être vécue? Voilà. C'est, je trouve que ça. Ça colle pas vraiment au personnage malgré l'intrigue Jean Grey. Et bon voilà, ça appelle un certain nombre de niaiseries un peu dispensables. Au niveau du scénario, de tout ce qui est cette intrigue-là, je trouve que c'est un petit peu... Ça aurait pu être mieux fait, à mon avis.
Bon, en même temps, on va pas avoir ce genre de film-là pour le scénario.
On est d'accord. Mais c'est un petit peu, si tu veux, le phénomène Iron Man 3. Iron Man 3, il y avait aussi cet aspect un peu dépressif chez Tony Stark, et qui était complètement passé à la trappe. Ben là, c'est la même chose. Ils font pareil avec Wolverine, et même chose, c'est raté.
Parce que dans Iron Man 3, cet aspect-là, justement, il était totalement surjoué et mal joué par la part de Tony Stark dans le film. Je suppose que pour ce que tu m'en dis de Wolverine, ça doit être du même acabit.
Alors Hugh Jackman est quand même pas trop mal dans le film, je trouve que il porte vraiment bien le film. Alors après bon, je pense que vous allez avoir énormément de personnes qui vont réfléchir sur la taille de ses abdominaux, mais bon ça j'ai l'impression qu'on s'en fout un peu. Mais sinon franchement je trouve qu'il est pas si mauvais que ça en termes de jeu. Donc voilà, c'est juste que ce qu'on lui demande de jouer est pas forcément génial quoi. Bon après au niveau du casting, il y a Hugh Jackman et tout le reste c'est que des japonais que j'avoue ne pas connaître. Parfois il y a certains moments qui sont joués en japonais et pas en anglais, qui s'est sous-titré, hein, vous en faites pas, sauf quand le film a décidé de pas vous faire comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Au niveau du film d'action, c'est très satisfaisant. Des belles scènes d'action, des effets spéciaux, surtout à la fin, qui sont assez impressionnants. De l'action presque non-stop, et souvent bien menée. Donc c'est assez rythmé, c'est un film qui dure 2h06, donc c'est quand même assez long, et qui ne nous ennuie pas. Bon, y a peut-être un tout petit passage où ça bat de l'aile un peu, où voilà, le scénario reprend un peu de... de l'espace, pour, mais
combien t'as dit 2h06
2h06, ouais.
Ah ouais, quand même, c'est long. Enfin, moi, je sais qu'un film d'action aussi long, j'aurais du mal.
Disons que voilà, je pense qu'on aurait pu faire un tout petit peu plus court, dans le sens où voilà, on aurait pu passer en dessous de l'heure, à mon avis, parce que voilà, il y a certains passages que j'aurais bien aimé couper, justement au moment où voilà, dans les moments où le scénario reprend un peu le pas sur l'action, et c'est pas forcément très heureux. Mais sinon, je pense que voilà, en fait. C'est assez étrange de juger ce Wolverine-là, c'est-à-dire que c'est satisfaisant, c'est plutôt sympa, mais voilà, si tu le compares au haut du panier des films de super-héros, bon, ça tient pas forcément la comparaison.
Ouais, mais voilà, en gros, c'est tu recommandes comme un bon film popcorn sans plus, quoi. C'est
ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est plutôt sympa en termes de voilà. Tu loues un petit DVD sympa, c'est et tu le regardes avec tes potes. Par contre, bon, je suis pas sûr que ça vaille vraiment le coup des 10 euros au cinéma, quoi. C'est un film en 3D aussi, bon, voilà, vous connaissez tout mon amour pour la 3D. Si vous pouvez le voir en 2D, c'est très bien. Ça vous gâchera pas l'expérience. Sinon, voilà, je pense que c'est plutôt sympa et ça n'a rien à voir avec le premier Wolverine qui était juste pourri, et là pour le coup, enfin, on a un film Wolverine qui est pas mal. Alors bon, ça n'a rien à voir non plus avec X-Men First Class qui était vraiment pour le coup très bien. Mais voilà, ça fait longtemps qu'on a, enfin ça fait longtemps, pas vu Wolverine dans un film sympa, et donc je pense que ça vaut le coup, si vous aimez bien ce genre de film, si vous recherchez un film d'action, voilà, je pense que c'est sympa.
Ok. Bon, je propose qu'on s'arrête là pour cette semaine, messieurs dames. Ouais. Rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye à tous.
Salut.
Salut.